Mardi matin, merci de débuter votre week-end avec l'équipe des matins du samedi. On est ensemble en direct pendant 2 heures. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et on fait un premier point sur l'actualité avec vous, Marion Ferrer. C'est le journal de ce samedi 16 novembre. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Marine Le Pen assure jouer sa survie et dénonce sa mort politique voulue suite au réquisitoire du parquet. La chef de file du RN était hier soir sur le plateau de nos confrères de TF1.
La COP29 entame sa 2e semaine en Azerbaïdjan.
En jeu, la lutte contre le réchauffement climatique dont les conséquences sont déjà visibles. Reportage dans ce journal en Chine avec notre correspondant Sébastien Berriot. Marine Le Pen contre-attaque. La chef de file des députés RN, 3 fois candidate à l'élection présidentielle, dénonce les réquisitions du parquet dans le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Ce dernier a notamment requis 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Sur le plateau de TF1 hier soir, elle n'a pas caché sa colère.
Ce réquisitoire est révoltant. Il est révoltant car il est profondément outrancier. Parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Dans un dossier dont je vous dis que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés, que nous n'avons violé aucune des lois françaises et aucun des règlements du Parlement européen, dans un procès où il n'y a pas un centime d'enrichissement personnel, dans un procès où il n'y a pas un emploi fictif, c'est même le parquet qui l'admet, puisqu'il dit « tous les assistants ont travaillé ». Eh bien, ce sentiment de révolte que je ressens profondément, des millions de Français le ressentent avec moi.
Et les plaidoiries de la défense sont attendues lundi. Le jugement du tribunal correctionnel, lui, doit être rendu début 2025.
La menace d'un procès se rapproche pour Rachida Dati.
Le parquet national financier a confirmé hier avoir requis un procès pour corruption et trafic d'influence à l'encontre de la ministre de la Culture et de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Rachida Dati est soupçonnée d'avoir perçu 900 000 euros de la part d'une filiale du groupe sans contrepartie d'un travail réel entre 2010 et 2012. Elle était alors avocate et députée européenne, ce qui pourrait avoir servi à masquer une activité de lobbying au Parlement européen. La ministre dénonce un réquisitoire infamant et une manœuvre politique de ses opposants. Emmanuel Macron est en Argentine. Il doit rencontrer ce samedi son homologue argentin, Javier Milei, élu président depuis près d'un an. Le but, notamment, raccrocher le chef de l'État argentin ultralibéral et climato-sceptique, fervent soutien de Donald Trump aux priorités du G20, dont les questions environnementales. Le sommet débute lundi au Brésil, à Rio. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Quand le changement climatique met en danger le patrimoine.
Alors que la COP29 se poursuit à Bakou après une semaine de négociations, on part ce matin dans le désert de Gobi, dans le nord de la Chine. Ici, l'évolution du climat se traduit par une recrudescence des phénomènes météos extrêmes, notamment des tempêtes de sable qui mettent sérieusement en péril un patrimoine millénaire. Les grottes de Mogao, creusées dans la roche par des moines à partir du 4e siècle, un site inestimable que les autorités chinoises tentent de protéger, Sébastien Berriot.
Les portes de Mogao s'ouvrent comme tous les matins pour laisser entrer les touristes. On vient admirer ici plus de 700 grottes creusées dans la roche par des moines bouddhistes à partir de l'an 366 après Jésus-Christ. Un lieu de pèlerinage sur l'ancienne route de la soie qui a survécu pendant près de 2000 ans mais qui aujourd'hui est menacée par des tempêtes de sable de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes. Le sable s'attaque aux peintures murales et aux bouddhas géants dans les grottes où la protection a dû être renforcé, explique Zhang Zhengmo, l'un des responsables du site.
Quand la tempête de sable arrive, on ferme les grottes. On a mis en place un système de protection contre le vent qui permet de réduire de 80% les effets des tempêtes. On lutte contre les poussières fines qui pénètrent dans les grottes, recouvrent les statues de Bouddha et provoquent leur érosion.
Les visiteurs sont également sensibilisés à cette nouvelle menace.
Si le climat continue ainsi, il y aura un impact négatif sur les statues et les peintures murales. Et cela ne sera pas propice à la conservation des pièces archéologiques. Et surtout, les couleurs vont être très vite abîmées.
Avec l'évolution du climat, le désert de Gobi est aussi confronté à un phénomène nouveau de précipitations très intenses sur de courtes durées. Là aussi, un système de protection a dû être mis en place pour éviter que ces grottes millénaires se retrouvent sous les eaux.
Et Sébastien Berriot, un mot de la météo avec un pays coupé en deux, brouillard et grisaille au nord, soleil plus franc sur le sud, les températures entre 0 et 10 dans la matinée, jusqu'à 19 degrés cet après-midi à Biarritz. La suite des matins avec vous, Nicolas Herbeau.
C'est moi. Merci beaucoup, Marion Ferrer. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour les titres. Je vous donne le thème de notre discussion ce matin. Nous questionnons la célébrité depuis le fameux quart d'heure promis à tout le monde en 68 par Andy Warhol. Le goût, l'attrait pour la gloire, même futile, même éphémère, semble pas être tari et inspire aujourd'hui séries, films et livres de cette célébrité qui a percuté de jeunes Français et Françaises dans l'aventure télévisuelle Love Story début 2000 jusqu'à celle qui pousse aujourd'hui les ados à mettre leur vie en scène, et leur corps sur les réseaux sociaux. Que cherche la jeunesse dans cette course à la notoriété? Que dit-elle de notre société et des injonctions faites aux femmes? On en parlera avec nos invités, les autrices Eddie Blanchard et Maude Ventura, ainsi que la réalisatrice Agathe Ridinger, qui viendra nous parler de son film Diamant Brut, qui sort mercredi prochain au cinéma. Bon réveil, voilà le programme donc sur France Culture ce matin. Il est 7h06.
7h-9h, les matins du samedi. Nicolas Herbeau.
C'est une bataille juridique et politique qui dure depuis plus de 4 ans, qui opposait les acteurs du monde associatif et le ministère de l'Intérieur et qui vient donc de trouver une issue, en tout cas en partie, dans la décision du Conseil d'État qui vient d'être rendue publique le 7 novembre dernier. La haute juridiction a validé la création et l'émission de la cellule Déméter. On va voir de quoi il s'agit, cellule de la gendarmerie créée en octobre 2019 par une convention signée par la place Beauvau d'un côté et les syndicats agricoles FNSEA et JA de l'autre, cellule censée lutter contre les atteintes au monde agricole. Invité de la transition de la semaine, Lionel Brun-Valicon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et responsable des questions environnementales. Première question pour donner un peu de contexte, à quel moment est née cette cellule Déméter? Quand est-ce qu'elle a été mise en place et avec quel but?
Alors, la cellule s'est mise en place en fait à la fin de l'année 2019. Donc, comme vous l'avez indiqué, dans le cadre d'une convention qui a été passée entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats agricoles dits productivistes pour aller rapidement. Et en fait, en même temps, dans le cadre d'une mission qui a été confiée à la gendarmerie pour coordonner ces services afin de partager des informations, notamment avec les syndicats et d'avoir des retours d'informations qui visaient à, en fait, principalement suivre les actions d'associations environnementales qui s'occupent notamment du fonctionnement de certaines exploitations agricoles et de leur et des dérives de certains modes de production, notamment dans des abattoirs, comme L214.
Alors justement, qu'est-ce qui, dès l'annonce de cette création en octobre 2019, alerte les associations environnementales, mais aussi vous, la Ligue des droits de l'homme, puisque vous déposez des recours contre cette convention, notamment pour entrave à la liberté associative, c'est ça?
Oui, parce que en fait le fait d'avoir une collaboration entre la gendarmerie qui a une mission qui est d'assurer la sécurité comme la police qui est d'ordre public et des personnes privées que sont les organisations syndicales pose un souci de fond sur l'organisation des missions de sécurité et notamment le but avoué qui est très très large et très vague d'éviter les atteintes symboliques au monde agricole et entre en confrontation directe avec justement la possibilité de s'exprimer sur les risques du modèle productiviste, sur les dérives des modes de production. Donc on voit clairement qu'il y a une orientation qui est politique donnée à cette cellule qui peut atteindre la liberté d'expression, la liberté d'association, par le fait que des personnes peuvent, donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, la gendarmerie a donc convoqué des personnes, s'est servi d'informations que donnaient les syndicats agricoles pour mener engager des procédures vis-à-vis de militants, voilà, surtout dans la période qui a suivi immédiatement. Effectivement, à partir du moment où il a été donné droit au recours devant la juridiction administrative, ça s'est un peu tassé pour voilà.
Vous craignez, en quelque sorte, effectivement, et vous le dites, des intimidations, des dissuasions en fait envers les associations qui dénoncent ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Mais très concrètement, ça passe par quelle méthode ? La cellule, elle est censée prévenir la commission d'actes délictueux, elle est censée surveiller, observer, échanger des informations. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous dénoncez ? Quel type d'entrave, en quelque sorte, vous avez observé ?
Alors, il y a eu des militants qui ont organisé des réunions publiques, par exemple, qui sont vus convoqués par la suite. Il y a eu notamment des juristes de France Nature Environnement qui, ayant participé à une action d'information à la lisière d'une exploitation, se sont vus ensuite convoqués et reprochés de s'être introduits dans cet endroit par la gendarmerie. Et puis des faits encore plus, attentatoire aux libertés. Notamment, il y a une journaliste qui, en 2021, avait échangé avec un agriculteur qu'elle avait enregistré, et à peine une heure après, la gendarmerie s'est présentée et lui a demandé d'effacer cet enregistrement. Donc voilà, on voit clairement là l'atteinte à la liberté d'informer et la capacité de porter à la connaissance du public des faits importants concernant des pratiques dommageables dans le monde agricole.
Il y a une forme de flou, c'est aussi ça que vous dénoncez, Lionel Brun-Valicon, puisque on l'a dit, une partie de ces actions-là ne sont pas pénalement répréhensibles. Donc il est difficile de comprendre pourquoi est-ce que d'un coup on se retrouve en tant que militant associatif surveillé par la gendarmerie, interrogé, comme vous le dites, c'est ça ?
Ben oui, la façon dont les objectifs de la cellule sont libellés montre qu'effectivement ça peut concerner toute forme d'expression concernant le monde agricole. C'est-à-dire que quand L214 ou une autre association montre qu'il y a des pratiques dans un abattoir qui sont illégales, ça donne une mauvaise image du monde agricole. Donc ça, c'est évident. Si on regarde ce qu'ils ont dit la cellule, ce serait pas une atteinte symbolique, voilà. Alors que évidemment, le fait de porter à la connaissance du public des pratiques gravement illégales, c'est très important dans le débat public dans une démocratie. Donc et malheureusement, c'est quelque chose qui demeure après la décision du Conseil d'État, qui tient pas compte du fait que les objectifs que se donne la cellule portent dommage à l'espace civique et à la possibilité de s'exprimer sur et de partager des informations sur les pratiques du monde agricole.
2019, ça fait donc plus de 4 ans qu'il y a cette bataille juridique. Il y avait une première censure partielle d'abord, et puis le Conseil d'État qui se prononce dans l'autre sens et qui dit tout de même la mission de Déméter ne doit pas viser à intimider ou à dissuader l'expression ou le partage d'opinions même radicales. Est-ce que cette partie-là de l'arrêt vous rassure en quelque sorte ou pas du tout ?
Bah pas exactement, parce que en fait justement la juridiction administrative précédemment avait bien limité, même s'il n'était pas allé jusqu'au bout, la capacité d'agir de la cellule, notamment sur ce qui s'appelait la prévention des actions qui pouvaient apporter atteinte symboliquement, voilà, au monde agricole, dans l'idée justement qu'il fallait préserver la capacité de s'exprimer, la capacité des associations de fonctionner et de faire leur travail, en fait. Que donc on pouvait comprendre les missions de la gendarmerie, notamment que dans le respect de cette capacité de s'exprimer. Et là, le Conseil d'État prend vraiment le parti inverse, en disant il n'y a pas de problème dès lors que la gendarmerie et les personnes qui contribuent à la cellule s'en tiennent aux missions d'ordre public et de sécurité des personnes. Eh bien oui, mais qu'en est-il de la capacité de continuer à s'exprimer, etc. Et c'est ça la question de fond. Euh, et, et, alors, pour préciser d'ailleurs, on se rend compte, grâce, alors là pour le coup au Conseil d'État, et c'est là que l'arrêt est intéressant, que y a la cellule, en parallèle de la cellule d'Emeter, donc c'était mis en place à travers une note express, une organisation de la gendarmerie dès 2019, qui prévoyait le partage d'informations, pas seulement des agriculteurs vers, enfin des organisations syndicales vers la gendarmerie, mais de la gendarmerie vers les agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose auquel les associations n'avaient pas eu accès, mais pressentaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, n'est absolument pas encadré par la réglementation. Et même si on dit que c'est des informations à caractère général, on a bien vu dans les faits que ça pouvait porter sur des enquêtes, sur en cours de formation, et donc on a vraiment un mélange des genres qui est vraiment très dangereux.
En un mot, puisque c'est la fin de l'interview, est-ce qu'il vous reste des recours contre la mise en place de cette cellule ?
La Ligue des droits de l'homme n'a pas participé directement au recours. Elle a soutenu les associations qui l'ont porté devant les juridictions françaises. Non, il y a toujours la possibilité, évidemment, quand il n'y a plus de recours dans les juridictions internes, d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que c'est quelque chose qui va être étudié. Moi, ce que je pense surtout important, c'est d'attirer l'attention sur le climat plus général de restrictions des libertés d'association et d'expression que ce dispositif met en évidence, et notamment à travers les amendements qui ont été adoptés au projet de loi de finances qui porte sur justement la possibilité qu'ont les associations de s'organiser, d'avoir des moyens de s'organiser et qui se verraient limitées si jamais elles étaient condamnées pour justement les faits d'infraction d'entrer dans une propriété agricole, voire de diffamation.
Merci beaucoup Lionel Brinvalli.
Voilà, on est vraiment dans une attente
spécifique. Merci à vous, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Il est 7h16 sur France Culture. Une actualité expliquée grâce aux cartes du journal Le Monde. C'est les cartes en mouvement avec vous, Flavie Olsinger. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes journaliste cartographe au service infographie et cartographie de notre partenaire. Cette semaine, vous nous parlez de la vision du monde du président brésilien Lula, qui va recevoir dans quelques jours chez lui le monde entier.
Les 18 et 19 novembre prochains, le Brésil accueille à Rio de Janeiro le sommet du G20, réunissant les 19 plus grandes puissances économiques mondiales, plus l'Union européenne. Un rendez-vous crucial pour le président Lula, qui souhaite redonner au Brésil sa place sur la scène internationale après les années Bolsonaro qui ont été marquées par un isolement diplomatique. Lula est dans son troisième mandat après avoir dirigé le pays de 2003 à 2011. Et le Brésil de Lula, 9e économie mondiale, 7e pays le plus peuplé, avec 216 millions d'habitants, entend bien jouer un rôle clé sur la scène mondiale.
Flavie, la carte proposée est cette semaine un planisphère avec une particularité, la projection qui n'est pas tout à fait classique.
Alors pour les connaisseurs, il s'agit de la projection de Perse qui place le pôle Nord au centre et qui éclate les autres continents autour. Ainsi, avec cette projection, les pays du Sud ne se trouvent pas en bas de la carte, à l'écart et marginalisés, mais forment une sorte de halo qui montre que ces pays comptent. Une vision que Lula cherche à défendre depuis son premier mandat avec la création des BRICS.
BRICS, ce sont ces pays signalés en jaune sur votre carte, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.
Exactement Nicolas. Et ce groupe, créé en 2009, vise à contrer l'influence dominante des pays occidentaux, notamment celle des États-Unis. L'idée était de former une alliance de puissances émergentes pour jouer un rôle plus important dans les affaires mondiales, notamment en matière d'économie, de politique et de développement, face aux pays du G7, ce groupe de grandes puissances économiques occidentales. Et pour le président Lula, l'objectif était de renforcer la position du Brésil sur la scène internationale.
Et justement, ce groupe s'est étendu avec ce qu'on appelle les BRICS+.
Oui, et le plus correspond à 4 nouveaux membres, l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Pour le président Lula, cet élargissement est un moyen de renouer avec l'esprit du tiers-monde et des pays non alignés de la conférence de Bandung en 1955, qui prônait alors une voie indépendante, loin de l'influence occidentale.
Une politique étrangère guidée par le non-alignement, justement.
Le président brésilien ambitionne de devenir le nouveau chef de cet ensemble de pays, ces nouveaux non-alignés. Son pays s'érige en porte-voix d'un nouveau Sud global. Lula apporte d'ailleurs un soin particulier au continent africain qu'il sillonne de bout en bout.
Et ce n'est pas le seul continent qu'il sillonne, ces déplacements que l'on peut voir sur la carte sont très nombreux.
Effectivement, en 2 ans, Lula a visité 32 pays et a passé plus de 2 mois et demi à l'étranger. En comptant ses 2 premiers mandats, il a réalisé 139 voyages dans 80 États. Et comme on peut le voir sur la carte, Lula se donne d'autres moyens pour parvenir à ses ambitions diplomatiques. Il a triplé le nombre de diplomates et a ouvert des ambassades par dizaines. Avec 205 représentations à l'étranger, le Brésil possède le 10e service diplomatique de la planète, quasiment à égalité avec l'Italie.
Mais est-ce que ce Sud global ou ces BRICS plus correspondent vraiment à une réalité économique et géopolitique tangible ?
Eh bien, ces pays sont unis par l'idée de former un bloc face à l'Occident. Mais leurs intérêts divergents compliquent une action unifiée. Économiquement, le Brésil est fortement dépendant de la Chine, qui représente environ 30% de ses exportations, contre 11% pour les États-Unis et 14% pour l'Union européenne. Alors que les échanges avec les autres BRICS sont très à la marge. Le Brésil se tourne aussi vers Pékin, en adoptant des normes chinoises en matière de nouvelles technologies, en scellant des accords sur des secteurs clés et en projetant aussi d'adhérer aux nouvelles routes de la soie promues par Xi Jinping.
Et qu'en est-il, Flavie, de l'impact du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ?
Eh bien, on se souvient que le prédécesseur de Lula, le président Bolsonaro, en fonction de 2019 à 2023, s'était toujours aligné sur la diplomatie de Donald Trump. La perspective du regain d'un protectionnisme américain pourrait pousser davantage le Brésil dans les bras de la Chine et dans une posture de non-alignement vis-à-vis de l'Occident.
Oui, il faut dire que dernièrement, Lula a multiplié les déclarations hostiles envers l'Occident.
Oui, on peut rappeler qu'au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, en février, Lula avait créé la polémique en déclarant « Ce qui arrive au peuple palestinien dans la bande de Gaza n'a jamais existé à aucun autre moment historique. En fait, cela a existé quand Hitler a décidé de tuer les Juifs. » Fin de citation. Et concernant la guerre en Ukraine, Lula a condamné l'invasion russe tout en tenant pour responsable l'OTAN, estimant que les fautes étaient partagées entre la Russie et l'Ukraine. Le président brésilien a toujours refusé d'imposer des sanctions à Moscou, car la Russie reste un partenaire clé du Brésil au sein des BRICS et un fournisseur essentiel d'engrais pour l'agriculture brésilienne.
Le monde vu par Lula, le planisphère, l'article sont à découvrir dans le journal Le Monde ce week-end et vous trouverez le lien sur la page des cartes au mouvement sur franceculture.fr. Merci beaucoup Flavie Holsinger. Récit d'enquête à 7h21 sur France Culture. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et ce matin, Récit d'enquête s'emploie au pluriel, puisque vous nous parlez non pas d'une, mais de deux enquêtes parues cette semaine sur le conflit qui déchire le Soudan depuis avril 2023.
Ce sont deux enquêtes en forme de reportage, de récits précieux, tant les journalistes sont rares sur place et pour cause. Depuis le 15 avril 2023 et l'éclatement de la guerre civile qui oppose les soldats de l'armée régulière du général Al-Burhan et les troupes de la milice paramilitaire du FSR, du général Hamdan Dogolo, alias Emeti, le Soudan est devenu un no man's land informationnel en plus d'un véritable enfer humanitaire. 11 millions de personnes seraient aujourd'hui déplacées dans le pays et l'on compte entre 20 000 et 150 000 morts civiles. La fourchette est très large, elle illustre bien le manque de données et de témoignages disponibles sur cette guerre.
Et c'est pourquoi vous nous en parlez ce matin, ce sont aussi les raisons qui ont poussé le journal Le Monde et l'hebdomadaire Marianne à publier des reportages enquêtes en série sur la situation du conflit.
Oui, d'abord avec cette série de reportages du journal Le Monde, signé Elliot Brachet, envoyé spécial à Khartoum, embarqué avec les troupes de l'armée du Soudan, du général Al-Burhan, qui nous plonge avec de nombreux détails dans les vies morcelées par la guerre et notamment dans le front invisible de la faim, raconte Elliot Brachet, qui s'est rendu dans un hôpital de campagne où les enfants rachitiques meurent dans les bras des médecins. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population, 26 millions de Soudanais, seraient en sous-nutrition aiguë, 8,5 millions d'entre eux seraient dans un état critique, la plus grave crise humanitaire au monde. Et pourtant, l'aide apportée de l'extérieur tarde à venir. Selon le récit qu'en fait le journaliste, la faim n'est pas seulement une conséquence de la guerre, elle est aussi une arme utilisée par l'armée qui empêche toute cargaison de traverser les lignes de front. Il n'y a pas de corridor humanitaire au Soudan et un témoin se questionne, la guerre est-elle vraiment plus dangereuse que la faim ?
Autre enquête, autre journal, cette fois-ci Marianne, l'hebdomadaire qui interroge le soutien des Émirats Arabes Unis aux milices FSR du général Emeti.
Oui, et c'est une chose connue depuis le début du conflit. Celui-ci s'aligne sur les enjeux géopolitiques qui l'entourent. D'un côté, l'armée régulière soutenue par l'Égypte du général Al-Sisi et de l'autre, la milice des forces de soutien rapide FSR, déjà connue pour les massacres du Darfour au début des années 2000, milice qui s'appuie sur le Tchad et au-delà sur les Émirats Arabes Unis qui la fournit en armes et en soutien logistique. Mais Bastien Massa, envoyé spécial de Marianne au Soudan, s'est intéressé de plus près à ce soutien de Dubaï, notamment à l'installation d'un centre humanitaire à l'aéroport d'Amjaras au Tchad, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière soudanaise. Marianne nous apprend ainsi que ce hub humanitaire est en réalité une tête de pont militaire. Selon l'Hebdo, qui reprend des images en sources ouvertes, exploitées également par le New York Times, les Émirats Arabes Unis utiliseraient le Croissant Rouge organisation humanitaire affiliée à la Croix-Rouge, comme base de lancement de drones de fabrication chinoise. Et les témoins interrogés par le journaliste sur place à Khartoum et dans le Darfour le confirment. Le ciel du Soudan est désormais clairsemé de ces drones noirs. Autant de violations du droit international par les Émirats arabes unis qui nient toute implication dans le conflit et appelle officiellement à la fin des combats. En attendant, c'est de séries de Marianne et du Monde qui lèvent le voile sur les enjeux et les conséquences de ce conflit particulièrement meurtrier convergent vers un triste constat. Le Soudan a définitivement plongé dans une guerre totale.
Merci Matteo Caranta. On vous met bien sûr tous les liens sur la page de Récits d'enquête sur le site de France Culture, franceculture.fr. 7h25, le reportage de la rédaction, alors que la COP29 sur le climat en Azerbaïdjan se poursuit. On s'intéresse ce matin au réchauffement, aux effets du réchauffement climatique. Direction l'île de la Réunion, au sud de l'océan Indien, où le recouvrement corallien s'est effondré de 40% en moins de 50 ans. En cause de la fourmi, le blanchiment corallien, mais aussi notre façon d'habiter la planète.
Donc voici nos petits polypes. Et qu'est-ce qu'ils mangent, nos petits polypes?
Ces petits polypes, justement, composent le corail. Car oui, le corail est bien un animal qui vit en symbiose avec de toutes petites algues, les zooxanthènes, organismes victimes du réchauffement climatique, comme l'explique Kevin, animateur à la réserve naturelle marine de La Réunion, à des touristes.
Vous avez sans doute entendu parler de blanchissement corallien. C'est dû parfois à une montée de la température de l'eau. Du coup, l'échange se fait mal entre le polype et la zooxanthelle. C'est pour ça que le coraux est blanc. Il n'a plus de zooxanthelle sous la peau. Mais il est malgré tout encore vivant, il est en mauvaise santé. D'accord.
À La Réunion, on observe des épisodes de blanchiment corallien tous les 4 à 5 ans, avec une perte d'environ 10% à chaque fois. Au dérèglement climatique s'ajoute la pression humaine, car tout est lié. Gilles Covin est responsable éducation à la réserve naturelle marine de La Réunion.
Le fait que l'île de La Réunion soit relativement jeune, elle a un fort relief. Et depuis 300 ans, depuis la colonisation de l'île, on a défriché, déforesté. Et on a un problème au niveau de l'érosion, hein, des bassins versants, au niveau des ravines, des rivières. Et lors de fortes pluies, pendant les cyclones, il y a des écoulements de boue qui se déversent dans le lagon. Et ça fait partie d'une des menaces principales qui pèsent sur les récifs coralliens. Donc la protection des récifs coralliens, elle commence en amont.
Pour illustrer cette idée, Léo Broudic me donne rendez-vous à Saint-Pierre, face au lagon et son camaïeu de bleu. Et pourtant,
pas loin d'où on est, on a une buse du nom de Petite Sirène. C'est des eaux usées et des eaux pluviales qui se mélangent et ressortent directement dans le récif. Et nous, avec nos résultats, on voit très bien que la zone à proximité de cette buse, les coraux sont morts.
Ce doctorant en socio-écologie rédige actuellement une thèse dont l'objectif est d'amener les pouvoirs publics à une meilleure prise en compte des récifs coralliens dans l'aménagement du territoire.
Il y a le schéma d'aménagement régional qui est en révision. D'ici 2026 ou 2027, il va être publié. Il y aurait 3200 hectares qui seraient à urbaniser, qui resteraient sur l'île à urbaniser. Donc voilà, maintenant, on se pose avec les différents acteurs, et pas que les acteurs économiques, pas que les lobbies, mais aussi avec la population. Et qu'est-ce qu'on en veut ? Ce qui me semble le plus important, c'est de vraiment mettre des outils de démocratie participative au cœur des politiques actuelles pour que la population puisse être écoutée.
Il faut donc agir, et pour certains, ça passe par la sensibilisation via le bouturage corallien.
Le récif, il est là, vous voyez là où les vagues cassent. C'est la barrière de corail et c'est elle qui nous protège ici.
À Étang Salé, Caroline et Armand de l'association Corécif présentent aux curieux le système. Installer des boutures de coraux morts sur des structures en métal immergées dans l'eau, nommées des frames.
Donc là, on est en train d'arriver sur les frames. Donc il y en a deux. On va arriver doucement et on va essayer de regarder. En général, il y a des poissons qui sont cachés dedans.
Là, à 40 mètres du bord environ, des dizaines de coraux multicolores reprennent vie. Pourtant, Caroline Massac le rappelle, le bouturage n'est pas une fin en soi.
On ne peut pas faire du bouturage en se disant « voilà, c'est bon, on a fait notre part, on a sauvé le récif ». Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce qui va marcher, c'est observer pourquoi le corail a du mal à se développer, quelles sont les pressions, et lutter contre ces pressions.
Le temps presse, conclut Evamir Ngassami, responsable du patrimoine à la réserve marine de La Réunion.
Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans une situation d'urgence. La particularité, c'est qu'on est sur un écosystème qui va essayer de se maintenir. Et à un moment donné, on va atteindre un point d'effondrement, c'est-à-dire qu'à partir de là, on va s'emballer et donc l'écosystème va s'effondrer. Actuellement, ça se maintient, mais ça se maintient de moins en moins bien. Ça répond encore quand même à certaines fonctions écosystémiques qui nous sont importantes, comme par exemple la protection contre l'agression des vagues, la production de sable blanc pour nos plages, et puis on peut encore y retirer une ressource alimentaire. Mais voilà, tout ça, c'est quelque chose qui peut s'effondrer encore plus dans les années à venir. Et c'est cet élément-là qui nous inquiète.
Et pour cause, d'ici 2050, 75% des coraux pourraient avoir totalement disparu dans le monde.
Lola Fourmi pour le reportage de la rédaction.
France Culture.
4 millions de malades en France, 600 000 personnes qui ignorent qu'elles sont atteintes. Le diabète est grave s'il n'est pas pris en charge.
Marina Carrère d'Encausse.
Or, son dépistage est simple et une prévention est accessible. Mais comment savoir si on est concerné par cette maladie? Comment vivre avec au quotidien? Comment mieux manger, dormir et bouger pour peut-être en guérir? Et pourquoi y a-t-il pénurie de médicaments les plus efficaces? On répond à toutes ces questions dans Carnet de Santé.
Carnet de Santé, chaque samedi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Grand-mère, mange nos bonbons.
Durant le second conflit mondial, les radios aussi sont en guerre. Radio Vichy, Radio Paris et Radio Londres s'affrontent dans de violentes batailles de propagande destinées à gagner les cœurs et les esprits.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Radio Paris.
Ce dimanche, nous revivons en archive cette guerre des ondes, des appels de Pétain et de Gaulle jusqu'aux premières émissions de la Libération.
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bon réveil, bienvenue dans les matins du samedi. Samedi 16 novembre à 7h30 sur France Culture. On retrouve Marion Ferrer pour les titres de l'actualité.
Emmanuel Macron débute sa tournée en Amérique latine. Le président est attendu au Brésil pour le G20, mais avant, il fait étape en Argentine. Il doit y rencontrer Javier Milei, son homologue argentin au pouvoir depuis décembre dernier et pro-Donald Trump. Nous y reviendrons en détail dans le prochain journal. Avant le G20, Joe Biden, lui aussi, avertit le président américain, assiste actuellement au sommet des pays du Pacifique à Lima, au Pérou, l'une de ses ultimes sorties internationales avant de passer la main à Donald Trump, réélu à la Maison Blanche, une arrivée qui pressent un moment de changement politique important, prévient Joe Biden. De son côté, le président chinois affiche également ses inquiétudes, annonçant que le monde entre, je cite, dans une ère de turbulence. La crise politique est évitée aux Pays-Bas. Après une réunion de crise, la coalition de droite se maintient au pouvoir. Hier, une secrétaire d'État a démissionné, accusant certains membres du gouvernement de racisme suite aux violences de la semaine dernière. Pour rappel, des heurts ont éclaté au cœur d'Amsterdam suite à un match de football impliquant le Maccabi Tel Aviv. Des supporters israéliens ont été attaqués et poursuivis dans les rues de la ville. En France, Marine Le Pen assure que les juges demandent, je cite, sa peine de mort politique. Dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, le parquet a notamment requis 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'encontre de la députée du RN. Un réquisitoire révoltant selon la candidate à la dernière élection présidentielle. Sur le plateau de TF1 hier soir, elle a de nouveau réfuté les accusations. On vous retrouve Nicolas Herbeau pour la suite des matins.
Merci Marion Ferrer. Le journal de 8h, ce sera donc tout à l'heure avec vous et vous serez de retour. D'ici là, je donne le programme de notre discussion avec nos invités. Nous décortiquons ce matin la célébrité et ses vertiges. Chacune à sa façon raconte dans un film ou un livre le parcours d'une femme qui veut devenir célèbre par ambition, pour combler un manque d'amour ou pour retrouver confiance en soi. Si les finalités sont diverses, le prix à payer peut être élevé. Cléo, héroïne de Maud Ventura, est prête à se salir les mains. À 19 ans, Liane, dans le film d'Agathe Ridinger, diamant brut ultra sexualisé son corps, tient comme les bimbos qu'on retrouve dans le livre d'Eddie Blanchard. Que nous disent ses représentations et ses œuvres de notre société et des normes de la féminité? On en parle dans quelques instants. 7h33 sur France Culture. La revue de presse internationale, le samedi aussi, et c'est avec vous. On vous retrouve, Catherine Dutu, bonjour à vous.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous.
Direction ce matin la Chine, vous revenez sur son marché du travail particulièrement anxiogène.
Avec des jeunes qui tentent de combattre le burn-out, l'épuisement professionnel, par des méthodes étonnantes, comme des séjours en maison de retraite, dès l'âge de 20 ou 30 ans. Pour répondre aux questions des auditeurs à nos côtés, Gilles Guilleux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-historien de la Chine, professeur à l'université Paris-Cité. Alors, peut-être pour revenir aux racines du stress lié au marché du travail en Chine, il faudrait peut-être rappeler la pression que subissent les jeunes Chinois dès l'école pour réussir à tout prix.
Oui, vous avez tout à fait raison. La Chine est une société extrêmement concurrentielle et la concurrence commence dès la plus tendre enfance. dans la plupart des familles, on compte un seul enfant. Donc la pression est très forte de parents, mais aussi des grands-parents. Et dès le jardin d'enfants, les familles qui ont les moyens sélectionnent avec soin le jardin d'enfants où leur enfant va, puis l'école primaire, le collège, puis le lycée, afin d'obtenir le meilleur résultat possible au Graal, qui est l'examen d'entrée à l'université, le Gaokao. Et en fonction des résultats que vous obtenez au Gaokao, vous pouvez ou non choisir votre affectation à l'université.
Est-ce que la pandémie a changé quelque chose en Chine avec le fameux rythme 9-9-6, travail de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine?
Oui, la jeunesse ouvrière, la jeunesse qualifiée n'est plus prête comme autrefois à sacrifier au nom de la construction nationale. Et le mouvement qui a le plus fait parler de lui, c'est ce mouvement dit « Tangping », qui est clos au printemps 21, quand un jeune ouvrier trentenaire publie une image de lui couché dans son lit, tangping veut dire rester couché, et explique qu'il ne sert à rien de s'épuiser au travail pour produire et consommer, et qu'il invite les internautes à rester allongés pour mieux profiter de la vie.
Et cette forme de résistance trouve également des échos d'ailleurs en Corée du Sud et au Japon, on l'a évoqué dans certaines revues de presse. Mais avec vous, Gilles Guilleux, peut-être quelques mots sur les travailleurs ruraux, les migrants internes à la Chine qui sont particulièrement vulnérables. Ils sont 290 millions de Chinois, de Chinoises à peu près.
C'est un tiers de la population active chinoise.
Sans la sécurité nécessaire dans le BTP, dans des usines Mattel par exemple, pour fabriquer des Barbies ou des figurines Disney, j'en avais parlé le mois dernier. Est-ce que là encore, il y a eu des changements depuis la pandémie?
Alors, les migrants, c'est majeur, hein, je dis c'est un tiers de la population active. Leur statut varie en fonction des provinces, parce qu'en fait, certaines localités sont plus progressistes que d'autres et donnent accès à un certain nombre de ressources, services de santé, services d'éducation, accès au logement à ces gens qui viennent de l'extérieur. Mais en théorie, ils ont un statut de citoyen de seconde zone et ils n'ont pas accès à ces ressources publiques parce qu'ils ne sont pas enregistrés dûment dans la localité où ils travaillent.
C'est la question des statuts en Chine qui est peut-être méconnue en France. Un citoyen urbain en Chine a davantage de droits que des Chinois qui se sont exilés de leur campagne.
Ouais, exactement. Donc on a un système de droits à plusieurs étages et les migrants ruraux ont une citoyenneté de deuxième ordre. Ce sont les acteurs de la prospérité des dernières décennies. Ce sont eux qui ont construit les villes, vous avez évoqué le secteur de la construction. Alors ce secteur de la construction est en pleine crise. En fait, aujourd'hui, la plupart des emplois des migrants sont des emplois de service. C'est les employés de maison et les livreurs. Une situation des migrants qui s'est dégradée avec la crise du Covid. On n'imagine pas ici en France, mais certaines estimations donnent 10% de la population active employée par les sociétés de plateforme. Et comme ici, ils offrent l'illusion aux travailleurs d'échapper à la domination du patron, puisqu'en fait, l'interaction se passe sur un téléphone portable, on se connecte, on se déconnecte. Sauf qu'évidemment, pour générer un revenu significatif, il faut travailler de très longues heures, prendre des risques qui ne sont pas couverts par aucune sécurité sociale, puisqu'il n'y a pas de contrat de travail entre la plateforme et le livreur.
Et cette question de la précarité accrue avec les services qui représentent désormais plus de 50% du PIB chinois, vous l'évoquez, Gilles Guilleux, dans la revue Mouvement social consacrée au régime de travail en Chine. Gilles Guilleux, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
Merci à vous.
Je le rappelle, vous êtes professeur de socio-histoire de la Chine à l'Université Paris-Cité. Vous pouvez continuer, vous, auditeurs, à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com.
Et merci à vous, Catherine Dutu, d'approfondir chaque samedi matin avec nous la revue de presse internationale de France Culture, qui est bien sûr à réécouter sur l'application Radio France. Il est
7h38. 7h-9h, les matins du samedi. Nicolas Herbault.
Il paraît bien loin le temps où Andy Warhol promettait à chacun et chacune son quart d'heure de célébrité à la télévision. La télé-réalité, Internet, les réseaux sociaux sont passés par là, facilitant encore, si on peut dire, l'accès à la célébrité, quelle que soit d'ailleurs sa durée, son intensité, ses objectifs et sa finalité. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la célébrité? Le résultat d'une ambition, une manière de combler un manque de confiance en soi ou d'amour? Tout le monde peut-il devenir quelqu'un? Est-ce synonyme d'émancipation, de liberté ou l'entreprise est-elle risquée et peut-elle mener au pire? Alors que séries, films, livres s'interrogent sur ce vertige d'une jeunesse plutôt féminine, on le verra, que dit cette course à la célébrité de notre société, du mépris, de classe, du sexisme qu'elle suscite et des normes qu'elle impose aux femmes. On va ouvrir cette discussion avec nos trois invités. Eddie Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Vous auscultez l'hyperféminité dans votre livre qui s'intitule Bimbo et qui paraît chez Lattès. Nous sommes également avec la réalisatrice Agathe Ridinger. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends bien. Bonjour.
Vous êtes à distance, dans un train. Merci infiniment d'être là. Vous deviez être évidemment en studio avec nous. Mais on va quand même pouvoir discuter avec vous. Votre film Diamant Brut sort mercredi prochain au cinéma. Il raconte comment Liane, une jeune fille de 19 ans, voit en la télé-réalité la possibilité d'être aimée et de devenir enfin quelqu'un. J'accueille également Maud Ventura. Bonjour.
Bonjour.
Autrice de Célèbre chez l'Iconoclaste, bienvenue à vous aussi. On a choisi de s'appuyer sur vos trois créations pour justement illustrer et réfléchir, questionner ce qu'est la célébrité aujourd'hui. Maud Ventura, votre personnage principal s'appelle Cléo. Elle a toujours voulu devenir quelqu'un, toujours voulu devenir une star. C'est le début du livre « La célébrité est ma vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir ».
Oui, exactement. Elle a toujours eu la foi, elle a toujours su, et ça raconte ce désir de célébrité, et vous l'avez dit, c'est une ambition aussi, une ambition très moderne, et en même temps une ambition qui revient de très très loin, ce désir de célébrité est quasiment immortel. Elle s'appelle Cléo, effectivement, vous l'avez dit, et Cléo, ça veut dire Cléos en grec, et Cléos en grec, c'est le concept qui veut dire gloire, célébrité. Et depuis l'Antiquité, ce désir de célébrité est lié à un désir d'immortalité. On le voit avec le personnage d'Achille, par exemple, et c'est l'idée de transcender le temps, de vivre une vie réussie. Donc c'est des vastes questions très profondes que pose en réalité la célébrité.
Alors pour mettre en scène votre fiction, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on ne découvre pas, voilà, il n'y a pas de suspense sur est-ce que Cléo va devenir célèbre ou pas. Non, très clairement, depuis l'âge de 4 ans, elle veut devenir Céline Dion. et on la découvre d'ailleurs au sommet de sa carrière, quasiment. Elle est déjà très connue, très célèbre, c'est une chanteuse pop. Et elle va rencontrer une actrice lors d'une soirée, qu'elle méprise d'ailleurs particulièrement, et qui va lui parler de cette fameuse île où seules les célébrités peuvent aller se reposer à l'écart de tout le monde, totalement déconnectées. Ça, c'est le début de votre livre, mais c'est l'occasion, effectivement, de nous raconter sa propre histoire. Et qui est-elle et comment est-ce qu'elle voit la célébrité, justement? Qu'est-ce que c'est pour elle, la célébrité?
C'est une ambition personnelle, c'est un pouvoir, une prise de pouvoir. Et comme vous l'avez dit, cette ambition, elle s'incarne dans mon personnage et dans une histoire. Et effectivement, Célèbre, c'est un roman, c'est une fiction avec cette île déserte et comme point de départ. Et donc, mon analyse de la célébrité, de son désir de célébrité, s'incarne dans ce personnage, dans cette scène, dans le romanesque. Et moi, je crois au pouvoir du roman et je crois à ces histoires qui disent plus que ce qu'elles semblent dire. Et donc, effectivement, suite à son parcours, c'est un roman en trois parties, on suit son enfance, puis son ascension, puis sa gloire, et cette histoire s'incarne dans un roman et pose des questions sur ce désir de célébrité qui, pour elle, est en fait assez mystérieux. Parce qu'on le voit dès le début du roman, elle vient d'un milieu très privilégié, un milieu d'universitaire parisien, un milieu très intellectuel. Et donc pour...
Elle est afro-américaine, son père est égyptologue, sa mère...
Statisticienne,
voilà. Donc elle est dans un milieu favorisé.
Exactement. Et donc ce désir de célébrité est assez incompréhensible et j'ai pas envie de briser ce mystère-là parce que effectivement pour elle, la célébrité n'est pas un moyen de sortir de la misère. Il n'y a pas une nécessité de cette célébrité. Elle pourrait rêver à bien d'autres vies et pourtant elle, ce qu'elle veut, c'est la lumière.
Être belle, riche et célèbre, c'est ce que veut Cléo, mais c'est aussi ce que veut Liane dans votre film Diamant Brut, Agathe Ridinger. Liane, elle a 19 ans, elle veut être célèbre, devenir une star de la télé-réalité. Quel est son talent à elle si Cléo chante dans le livre de Maud Ventura? Quel est le talent de Liane?
Alors le talent de Liane, à l'échelle de Liane, selon elle, elle a le talent de pouvoir convoquer les regards sur elle, de pouvoir incarner une parole très forte, de revendiquer des choses et d'avoir une plastique qui attire les regards et donc de rentrer dans les codes qui sont des codes dont on nous dit que ce sont des codes de talent, des codes de réussite parce que tout à coup elle est très belle et qu'elle répond à des normes d'icônes comme ça. Donc c'est après le talent, de mon point de vue, le talent dont Liane n'a pas conscience, le talent de candidate de télé-réalité ou d'influenceuse, c'est le talent d'être soi, qui est un talent finalement qui est très décrié parce qu'on a l'impression que c'est rien, alors que par ailleurs, il faut quand même tenir des séquences, il faut avoir des histoires à raconter, il faut avoir une parole qui provoque une réaction chez le spectateur, qu'elle soit de l'ordre du clash ou de l'ordre de l'humiliation, c'est encore autre chose, mais en tout cas, c'est quand même le talent de faire voyager le spectateur, en tout cas, ou celui qui est sur Internet aussi.
Et c'est d'ailleurs le point commun entre Cléo et Liane, si on les tisse, il y a des différences, on va y revenir, mais c'est évidemment d'avoir été repéré sur les réseaux sociaux. Liane, qui dans l'extrait qu'on va découvrir, se retrouve face donc à cette directrice de casting.
T'as refait des choses aussi naturelles ?
Les seins l'année dernière.
Pas les dents ?
Non. Et il y a une copine qui m'a fait l'acide hyaluronique aux lèvres, mais c'est presque parti déjà.
Ok, tu peux te présenter pour la caméra, ton nom complet, ton âge, ton emploi ?
Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans, j'ai fait un peu serveuse, et voilà, c'est avec ça que j'ai payé mes seins.
Ok. T'es libre en ce moment ?
Oui, je m'occupe pas mal de ma sœur. Et...
Tes parents travaillent beaucoup ? Non, je te dis ça parce que c'est un vrai engagement. Hein. Faut mesurer que le tournage dure 2 mois, après il y a beaucoup de promos, il y a d'autres tournages.
C'est bon.
Ok, bon, je t'ai vue sur les réseaux, j'adore, hein, tes danses, tout. T'as déjà fait des concours de beauté ? Mais t'aimes plaire, ça se voit.
Tout le monde aime plaire.
Extrait de Diamant Brut, en salle, mercredi prochain, votre film Agathe Ridinger, avec Malou Kebizi qui incarne Liane, Idi Razougli et Andréa Besco notamment. On sent, et d'ailleurs c'est très clair, Liane, elle est Agathe Ridinger dans un milieu social bien plus modeste, d'une famille monoparentale, mère célibataire, et c'est cette jeune fille de 19 ans qui endosse d'ailleurs le rôle de parent en quelque sorte pour s'occuper de sa sœur. Cette promesse de célébrité, pour elle, c'est véritablement la promesse de s'enfuir, de quitter là où elle vit, d'ouvrir la porte d'une future carrière.
C'est à la fois ça, c'est certain, et c'est aussi en même temps une revanche. C'est une revanche sur le mépris qu'elle ressent et l'invisibilité dans laquelle elle a l'impression de se noyer. Donc c'est vraiment, il y a vraiment l'aspect financier de mieux vivre, et puis l'aspect aussi qui relève plus de la dignité et de l'amour de soi, de l'estime de soi, qui va avec très souvent, quand même beaucoup, avec la célébrité.
Je suis un soldat et cette revanche, on va la faire ensemble, elle dit dans une des stories qu'elle poste sur les réseaux sociaux, bien avant les réseaux sociaux. La télé-réalité, bien évidemment, a mis en avant ce désir de célébrité, même si c'était pas évident tout de suite, je fais référence à la série culte qui revient sur l'avènement de la télé-réalité en France avec le phénomène Love Story. C'était en 2001, 11 célibataires, je le rappelle, enfermés dans une maison, filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Programme qui va leur offrir cette célébrité à l'époque, même s'ils ne la recherchaient pas en quelque sorte. Eddie Blanchard, Loana du Loft, Loana Petrucciani, hein, qu'elle a quand même un nom, je le dis avec ironie, oui. Parce que effectivement. Elle a été en quelque sorte le symbole de la figure de la bimbo dans cette série. C'est elle qui remporte le jeu. Et elle aussi, elle est recrutée pour cela dans le casting de l'émission.
Oui, c'est ça, parce que c'est une personne attachante, dans laquelle on peut toutes et tous reconnaître. Mais par contre, par la suite, c'est vrai qu'elle a été vraiment médiatisée d'une manière assez atroce. Et c'est vrai que ça a contribué, notamment en France, à renforcer cette image de bimbo qui forcément serait quelque chose d'assez binaire finalement, qui serait forcément tout de suite sexualisée, tout de suite idiote, alors que pas du tout, bien sûr.
À quel moment vous vous posez cette question de la bimbo, vous, puisque votre livre, c'est une forme, il y a une forme un peu mélangée d'essais, de réflexion personnelle aussi, mais à quel moment cette question voilà, de la bimbo, vous dites, il y a quelque chose derrière cette figure-là qui dit aussi des choses sur les femmes ?
Oui, tout à fait. Alors oui, en effet, mon livre est un peu comme une espèce de petit journal intime où je mène une enquête pour comprendre justement quelle influence a eu la bimbo, par exemple, sur ma vie. Moi, je suis née en 93. Il y avait des poster de Britney dans ma chambre, justement Loana qui passait à la télé. Et ces femmes donc, qui avaient cette étiquette de bimbo dans les médias, c'est vrai que j'ai essayé de m'en rapprocher, je pense, en grandissant, et en même temps de m'en éloigner parce qu'elles avaient... Il y avait de nombreux préjugés en fait, qui les caractérisaient, alors qu'en même temps, elles étaient célébrées. Donc il y avait vraiment cette ambivalence qui est toujours présente d'ailleurs. Et je me suis interrogée par rapport à ça pour, moi, répondre à des problématiques personnelles. Comprendre pourquoi j'aimais m'habiller sexy, par exemple, pourquoi j'avais beau d'ailleurs adoré l'hyperféminité, je pouvais le mépriser chez les autres personnes qui le font aussi. J'étais moi-même victime de paradoxes, en fait, et j'avais envie de comprendre pourquoi. Et la figure de la bimbo, l'étudier m'a permis de comprendre ça et de me réconcilier un peu avec moi et avec elle aussi.
Loana Duloff, personnage attachant. Cléo de célèbre, Maud Ventura, si je puis me permettre, n'est pas tout à fait attachante. Elle a un petit côté odieux, vaniteux, quelque chose qui fait, voilà, on a du mal à retrouver, enfin, je sais pas comment dire, à avoir de la peine pour elle quand elle a des difficultés. Elle a quelque chose effectivement qu'on a envie de détester chez elle. Elle est très cynique, mais elle travaille, sa musique c'est son entreprise, son image c'est sa façon de réussir aussi, et comme le disait Eddie Blanchard, ce n'est pas une écervelée.
Ah non, loin de là. Et je pense que pouvoir affirmer qu'aucune chanteuse pop n'est stupide. Il faut savoir d'abord bien chanter, écrire de bonnes chansons, c'est une première chose. Mais c'est aussi une entreprise stratégique. Savoir bien s'entourer, sortir ses chansons au bon moment, s'associer aux bons artistes. Et effectivement, mon personnage, Cléo, est brillante. Vous le disiez, elle est peut-être pas très sympathique. Et ça me va d'ailleurs. Je ne crois pas qu'on fasse de la littérature avec des bons sentiments. Et je ne cherche pas particulièrement à ce que mon lecteur l'aime ou s'attache à elle. Je pense que la littérature se joue ailleurs et surtout pas du côté de la morale. C'est un roman qui est écrit à la première personne. On est dans sa tête, on est dans son corps et on est elle, et on est en fait l'une des femmes les plus célèbres au monde avec tout ce que ça implique. Et ensuite au lecteur de faire ce travail d'empathie et de voir ses propres limites, de voir ce qui va faire réagir. Le dernier point, c'est que effectivement Cléo, vous l'avez dit, c'est une travailleuse, c'est une grande ambitieuse, et je trouve que l'ambition a plus ou moins déserté la littérature contemporaine. Et moi qui aime beaucoup le 19e siècle et notamment la comédie humaine, j'aime ces personnages de grandes ambitieuses. C'est ma Rastignac, Cléo.
Vous l'avez prononcé, le mot corps. Oui. Je vais lire un extrait, puisque vous l'avez dit. Elle se compare, Cléo, aussi à une forme d'athlète, en quelque sorte. Elle dit « Une image me vient sans cesse, celle d'une orange que l'on presse. Bientôt, je n'aurai plus rien à donner. Ils me paient cher, mais ils me prennent tout. J'ai peur de faire le concert de trop, celui où je vais m'écrouler sur scène. » Premier album, le succès. Comment justement faire perdurer aussi cette célébrité? C'est ça la question. Pour certains, ça a été bien plus éphémère.
Exactement, parce qu'on parle souvent de l'accès à la célébrité, mais la question c'est comment faire durer la célébrité. Et effectivement, Cléo devient célèbre dans le roman, on l'apprend dès les premiers chapitres, aucun suspense de ce point de vue-là, mais une fois qu'on est au plus haut niveau, comment se maintenir? Et dans la célébrité, il y a évidemment une grande concurrence dans le milieu de la pop et toutes les chanteuses qui attendent de prendre la place de Cléo, et donc il y a quelque chose de cruel. Ça parle aussi d'insatisfaction, de ne jamais se dire ça y est, j'ai réussi, j'y suis, et de toujours penser à l'étape d'après. Donc la célébrité est aussi une machine qui ne s'arrête jamais et d'une grande cruauté.
Agathe Ridinger, un mot sur votre personnage de Liane, qui est très attachant, c'est vrai, mais qui a une représentation aussi, qui est parfois jugée, méprisée, personnage, si je puis dire, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, de cagole du sud de la France, très coquette, certains diraient très vulgaire. C'est pas une héroïne comme les autres. On peut pas dire que ce soit un modèle. Est-ce que vous l'avez imaginé et pensé comme ça?
Je l'ai imaginé surtout en essayant de me rapprocher le plus possible de la réalité d'une jeune femme, et avec la volonté avec la conscience déjà de m'attaquer à un personnage qui réunisse beaucoup, beaucoup d'archétypes qui fassent qu'on la dénigre ou qu'on la disqualifie. Mais moi, ma volonté, c'était justement d'aller montrer ce qu'il y avait derrière tout ça et de montrer la réalité de ses motivations et de son cœur, et donc de montrer que si elle fait ça, si elle veut être coquette, si elle veut, si elle est hyper sexualisée, c'est encore plus fort que coquette, si elle veut être dans l'hyperféminité, dans la provocation, c'est pour que les gens la regardent, et c'est pour avoir l'impression d'exister dans le regard de l'autre, et donc de sentir valable d'une certaine façon. Donc moi, mon enjeu, c'était de raconter que bien qu'elle soit extrêmement radicale, elle a une vision hyper tranchée, assez cruelle de la vie d'ailleurs, et qu'elle fait tout ça en fait par besoin d'amour. Et donc c'était de jouer sur ce paradoxe pour montrer aussi que les étiquettes, il serait temps de les décoller et de nuancer, et que les choses ne sont jamais binaires, et qu'on n'est jamais on fait jamais les choses juste gratuitement. Donc et puis c'est un personnage qui se débat aussi beaucoup avec la tyrannie des réseaux sociaux, la tyrannie de l'image, la tyrannie de la perfection, la tyrannie de la performance qui baigne absolument partout dans la société, à toutes les échelles, à tous les âges et tous les milieux sociaux. Donc elle est vraiment en résistance.
Vous parliez de revanche sociale justement tout à l'heure, face à ce mépris de classe. Est-ce que dans les milieux populaires, cette rage, cette sexualisation, cette féminité, elle est plus accentuée?
J'aurais tendance à dire oui, mais j'ai pas du tout envie de faire de généralité, mais j'aurais tendance, si je regarde du versant bourgeois, et en effet, le versant bourgeois est peut-être moins sexualisé, ou pas de la même manière, on va dire. Les codes, il y a toute une pression sur l'élégance et le raffinement qui est encore autre chose, donc, et qui est de toute façon très subjective, mais donc c'est pas tout à fait les mêmes hypersexualisations, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un outil pour la beauté, enfin, savoir braquer les regards sur soi et utiliser sa beauté, l'instrumentaliser, c'est quelque chose que des millions et des millions de femmes ont fait depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau.
Après votre premier court-métrage qui s'appelle J'attends Jupiter, vous donc nous proposez ce long-métrage qui sort ce mercredi dans les salles. Agathe Ridinger, d'où vient cette fascination pour ce milieu de la télé-réalité, des réseaux sociaux, qui véhicule aussi des valeurs qui sont pas tout à fait nobles ou qui peuvent parfois être aussi détestables? La violence, on a parlé d'hypersexualisation, la culture du viol aussi, mais que vous dénoncez aussi, effectivement, dans ce film Diamant Brut.
Bah, en fait, tout ça vient déjà du fait que je suis une très grande consommatrice de télé-réalité. J'en regarde depuis toujours. Je regarde depuis l'époque du Loft. Donc, j'ai aussi vu des changements qu'il y avait au sein du milieu de la télé-réalité. La télé-réalité d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la télé-réalité de l'époque de Love Story. Donc, je regardais ça à la fois avec sidération pour toute la violence avec laquelle ces programmes sont fabriqués et que ces programmes véhiculent et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, de mépris de classe et de tout ce que vous citez juste avant, d'hypersexualisation, de culture du clash, d'humiliation, de harcèlement. Et à côté de ça, je regarde aussi, j'ai une fascination aussi pour... Et j'éprouve beaucoup d'admiration pour les candidats de télé-réalité qui s'emparent finalement qui prennent des chemins de traverse pour se faire une place dans la société et qui utilisent des outils de l'époque aussi, à savoir devenir des icônes. Ça, c'est quelque chose qui est un refrain qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui. Et j'ai beaucoup j'ai une vraie fascination pour les candidats et pour cette manière de se présenter au monde avec cette hyper-féminité, cette hyper-sexualisation de leur corps et qui moi me fait m'interroger sur le pouvoir que ça génère, ou bien sur la preuve qu'on est encore très très soumise à des dictats patriarcaux qui vont nous exiger d'une femme que son rôle social ce soit majoritairement d'être belle pour avoir de la valeur, quoi.
Ce sera le sujet de la suite de la discussion. Un mot, Élie Blanchard, justement, peut-être l'un des points communs aussi de vos trois œuvres, ce sont ces célébrités qui sont des références. On a parlé de Loana et de Love Story, mais il y a Britney Spears aussi, il y a Paris Hilton. Est-ce que tout cela, ça fait en quelque sorte aussi le portrait d'une génération, en quelque sorte, qui a grandi avec toutes ces figures-là, Élie Blanchard?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez toutes les deux, c'est vrai qu'il y a d'une certaine manière, c'est amusant comment la société en fait condamne des femmes, mais en même temps, elle les condamne pour ce que la société leur demande aussi. Donc être belle, prendre soin d'elle, faire un peu le spectacle quelque part. Et je sais que dans le livre, par exemple, je relève plein d'exemples différents, mais par exemple Marilyn Monroe qui elle finalement dit clairement que elle veut se jouer de sa beauté pour être connue, pour exister, et elle pense. Elle dit les photographes pensent se servir de moi pour leurs photos, mais c'est moi qui me sers d'eux finalement. Paris Hilton, pareil, elle avoue publiquement même que sa voix hyper aiguë, c'est une invention, c'est pour créer l'attention, pour créer quelque chose de surprenant. Et donc ça, c'est une hypocrisie que je trouvais hyper intéressante, cette espèce de double injonction envers les femmes. Et donc oui, forcément, toutes ces bimbos et toutes ces représentations forment quelque chose d'intéressant pour notre génération. Et aujourd'hui, finalement, la bimbo, elle est revaloriser aussi, parce que on montre d'une certaine manière qu'on peut être plein de choses à la fois. D'ailleurs, en étant hyper féminine, on peut aussi être intelligente, avoir plein de choses à dire. Et en fait, ce que dit notre génération, c'est aussi on n'est plus qu'une seule chose. Il n'y a pas qu'une étiquette qui nous définit. Et d'ailleurs, dans le livre, je l'explique, mais la BIMO n'est qu'une étiquette parmi tant d'autres. Et en fait, elle ne veut pas dire grand-chose, finalement, cette étiquette.
Et elle est peut-être bien plus subversive que ce qu'on croit. On va en parler, évidemment, dans la deuxième partie. On verra aussi, peut-être, à quel point les candidats de télé-réalité ont utilisé, effectivement, pour devenir célèbre, cette méthode-là. Et peut-être que Loana est, en fait, peut-être aussi devenue une figure vers qui elles peuvent se rappeler. On en parle dans 20 minutes, juste après le journal de 8 heures. On poursuit cette discussion avec notre invité.
Vous écoutez France Culture.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.
Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Ce sont 13 épisodes proposés par les Pieds sur Terre pour illustrer les résultats de cette vaste enquête. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération.
Découvrez l'exposition La Grande Expédition au 104 Paris avec la Fondation Tara Océan. Explorez les enjeux environnementaux et poétiques liés à l'océan. À travers les œuvres de plus de 40 artistes, de Sebastião Salgado à Pierre Huyghe. Une exposition.